tour, c'est Onde Noire, et Onde Noire, une Onde Noire un peu spéciale, puisque cette interview est enregistrée à l'occasion du salon Sans d'encre à Vienne, et nous avons le grand plaisir de recevoir Romain Saucombe. Bonsoir Romain.
Bonsoir.
Bonjour d'ailleurs, parce qu'en fait on enregistre cette émission le matin pour une fois. Le secret d'Igor Koliazine, c'est, si je ne m'abuse, votre 20e roman.
C'est possible, peut-être même 21e, mais 21e, bon, mais ça dépend, parce qu'il y a des romans pour adolescents, quelquefois je les compte en jeunesse, quelquefois je les compte en adulte.
Je ne les ai pas comptés, là.
Oui.
Donc là,
il y en a un, en tout cas.
Voilà, et donc ce roman s'appelle Le secret d'Igor Koliazine. Il est paru très récemment, au mois d'octobre, le mois dernier, à la collection Policier Seuil. Et on retrouve avec un pur bonheur un personnage qu'on avait découvert dans Première station avant abattoir, qui est Ralph Exeter. Alors, on avait déjà parlé de ce personnage, de son origine, de vos gros dossiers. On aimerait un petit peu, là, que vous nous parliez un peu de son côté journaliste, agent secret, voilà, qu'est-ce qui... Voilà, on l'a quitté un peu dans des brumes italiennes et on le retrouve là...
Comme il est inspiré de mon grand-père, Georges Slocombe, et que c'est une figure, mon grand-père, qui a remarqué mon enfance, parce que je l'ai connu jusqu'à ce que... Enfin, moi, j'ai l'âge de 10 ans quand il est décédé. Et c'était ce qu'on appelle un grand reporter et quelqu'un de très connu dans l'entre-deux-guerres. Il a été vraiment spécialiste de politique internationale. Enfin, il avait d'ailleurs beaucoup de clairvoyance. Il avait prévu la Seconde Guerre mondiale des années avant. Et c'était aussi, comme tous les journalistes de sa génération, un voyageur et un homme à femme, apparemment, et aussi un solide buveur. Et,
ce que l'on retrouve dans le livre.
Voilà, donc j'ai décidé de... Pour, en créant ce personnage de Ralph Exeter, de forcer le trait, d'en faire un personnage picaresque et sympathique, mais bourré de défauts également.
Un bel être humain, en fait.
Voilà, tout à fait.
Donc, on l'avait rencontré, Première station avant abattoir, c'était la conférence internationale de Gênes en 1922. Donc, votre grand-père y avait vraiment participé.
Oui.
Et là, après des débuts en Europe plus du Nord... vous allez emmener votre personnage à Istanbul. Alors, est-ce que c'est aussi par rapport à une histoire réelle qu'a vécu votre grand-père ?
La seule partie qui soit réelle par rapport à la vie de mon grand-père dans ce roman, c'est le fait qu'il était surveillé par le MI5, donc la sécurité intérieure britannique, et par le deuxième bureau français, qui le soupçonnait, probablement à juste titre, de faire de l'espionnage pour l'Union soviétique. Et j'ai eu accès à ces dossiers qui sont déclassifiés, donc j'ai utilisé, dans le début du livre, quand l'Intelligence Service s'efforce de le recruter, on lui montre des documents entre guillemets accablants et qui sont en fait, à part que j'ai changé les noms, des documents authentiques. L'autre chose, c'est que dans ses mémoires qu'il a écrit très jeune, en 1936, à l'âge de 40 ans, il raconte un voyage qu'il a fait en avion depuis Londres jusqu'à... En fait, il allait en Inde, donc il allait jusqu'à Karachi, qui faisait partie de l'Inde britannique à l'époque. Et il s'est arrêté notamment à l'aéroport de Salonique, et toute la partie Londres-Salonique, en fait, j'ai vraiment utilisé les détails très très pittoresques du voyage de mon grand-père, avec un avion dont les hublots sont cassés, les listes de rechange est amarrée très mal dans le couloir et se libère de ses attaches et n'arrête pas de rouler pendant le voyage. On est obligé d'atterrir en catastrophe à l'aérodrome de Nuremberg parce qu'un orage a endommagé l'hélice. Le pilote et le navigateur sont à l'air libre, dans des cockpits à l'air libre, et les passagers au nombre d'une petite dizaine à l'intérieur dans des fauteuils en osier. Enfin, je trouvais ce voyage absolument extraordinaire et je l'ai utilisé. Et puis, comme ma destination était Constantinople et pas Karachi, je l'ai fait changer d'avion et prendre un hydravion encore plus brinque-ballant de Salonique jusqu'à Constantinople, vu qu'on disait Constantinople et pas Istanbul à l'époque.
Alors, c'est vrai que vous avez utilisé le terme picaresque tout à l'heure, et je reprends ces deux anecdotes autour des avions. Moi, à un moment donné, justement, dans l'un de ces deux avions, Ralph Exeter, qui est journaliste, donc petit reporter, il m'a un petit peu fait penser à Tintin, quand même, à des moments.
Il y a un petit côté
dans ces aventures, voilà, du petit reporter qui va à travers le monde.
Sauf qu'un des grands mystères de Tintin, c'est qu'on ne le voit jamais dans la bande dessinée de Hergé écrire la moindre ligne de reportage, ni téléphoner à son journal.
Alors qu'ici, et puis en plus, il n'y a pas de femmes. Ici, il voilà, y en a beaucoup. Ça, c'est deux grandes différences.
Voilà, et puis il y a quand même des dépêches qui sont câblées, etc. Il prend tout le temps des notes, etc. Quand il entend des histoires très cocasses, comme l'histoire des courses de cafards qu'on organisait à Constantinople, il prend des notes mentales pour l'article cocasse qui compte bien écrire à ce sujet. C'est un vrai journaliste, et ces journalistes étaient très ils couraient vraiment après les scoops, ils étaient extrêmement aventureux, ils se connaissaient tous, et c'est un milieu que j'avais envie de célébrer à ma manière.
Alors, autre milieu que vous aviez, à mon avis, envie de célébrer à votre manière, c'est Istanbul, nid d'espions.
Tout à fait. Et je crois que c'est une des caractéristiques de la série, vu que le précédent épisode se déroulait à Gênes, également nid d'espions. C'est un petit peu de rendre hommage aussi à ce roman d'espionnage de l'entre-deux-guerres, qui n'est pas du tout le roman que j'aime beaucoup aussi de John le Carré, enfin les romans de la guerre froide. Là, on est plutôt chez Graham Greene, chez Eric Ambler, un peu chez Hergé, effectivement, à cause de l'aspect Tintin. On est dans un monde extrêmement romanesque et un monde où à la veille de la Seconde Guerre mondiale tous les services secrets de tous ces pays sont sur les dents. Il y aura des envoyés d'Adolf Hitler également, il y a la sécurité d'État turque, il y a les Bulgares soupçonneux, il y a les Anglais cyniques. Pour moi, en tant qu'écrivain, c'était extrêmement jouissif, comme on dit, de mettre en scène ce petit monde et ses intrigues.
Et particulièrement dans cette ville si belle. Alors, on va vous demander aussi comment vous avez pu décrire avec autant de minutie et autant de clairvoyance, je dirais, parce qu'il faut être... Vous n'avez pas été en 1925, donc Constantinople, en 1925. Des photos, des documents, c'est impressionnant, on a l'impression d'y être.
Alors, j'ai fait beaucoup de recherches de documents, ça je le fais toujours, comme je l'avais fait pour Gênes, surtout des documents anciens évidemment, c'est-à-dire vieilles cartes postales, etc. Enfin, grâce à Google, on peut, en tapant certains mots et en images, trouver beaucoup de choses, mais aussi des récits de l'époque, Hemingway y a été, et puis une femme qui avait d'ailleurs probablement été une maîtresse de mon grand-père, et qui était la cousine de Winston Churchill, elle s'appelait Claire Sheridan, c'était une sculptrice excentrique et qui elle-même faisait du renseignement pour l'Union soviétique. Et je l'ai appelée Claire Sullivan dans mon roman. Voilà, et elle a laissé beaucoup de récits de voyage, enfin plusieurs récits de voyage écrits dans les années 20, y compris un récit de son voyage à Moscou juste après la Révolution, où elle avait interviewé et sculpté Trotsky et Lénine. Et bien là, pendant à peu près une année, elle était installée avec ses deux enfants à Constantinople dans un palais ottoman que lui avait prêté l'ambassadeur soviétique.
Donc histoire vraie, la maison
existait. Tout à fait, la maison existait, le Yali Moskov, et elle parle beaucoup, mais j'avais même des éléments d'information sur les plantes, les arbres, les fleurs qu'elle y faisait pousser, le répétiteur bulgare qui bricolait des bombes avec ses enfants, tout ça c'est absolument authentique, et les descriptions très belles qu'elle fait du lever du soleil sur le Bosphore,
voilà,
par exemple.
J'allais vous parler de cette scène parce que ça, on a vraiment l'impression que vous avez peint un tableau. Quand il y a vraiment une image, on est à travers la fenêtre de ce palais-là, et il y a voilà, ce coucher de soleil, le Bosphore, et les personnages qui regardent ça, il y a comme un point de vue vraiment pictural dans cette description. Et donc Claire va être une des nombreuses femmes que va rencontrer Ralph, mais il faut quand même parler du titre, puisque je rappelle que le titre s'appelle « Le secret d'Igor Kolyazine ». Pourquoi Ralph veut aller absolument rencontrer ce personnage, lui aussi haut en couleur?
Ah, tout à fait. Alors là aussi, on est dans la réalité. Et totalement par hasard, un jour, dans une librairie d'occasion ouverte tard la nuit, dans la ville d'Autun, je rentre et je fouille un peu dans les bacs à livres et sur les rayonnages, comme je fais souvent, et je tombe sur un livre paru chez Robert Laffont dans les années 70, qui s'appelle Le secret de Nicolas Suidine et qui était écrit par un ancien cosaque devenu directeur d'une troupe de cosaques dansant et chantant, donc une troupe folklorique, et qui racontait un récit absolument hallucinant de trésors qu'il aurait enterrés avec un autre officier de l'armée blanche en Bulgarie en 1922, le trésor d'une des grandes armées blanches qui avait essayé de restaurer la monarchie lors de la guerre civile de 1919-1920. Et cette histoire était extrêmement réaliste, extrêmement crédible. Et je me suis dit, même au cas où ce serait un escroc qui aurait vécu sur cette légende et essayé de gagner de l'argent en cherchant des investisseurs pour l'aider à retrouver un trésor imaginaire, même si c'était imaginaire, et ça je n'en sais rien, c'était un personnage tellement fantastique, un vrai personnage de roman, et donc je me suis approprié son histoire, et je l'ai appelé, j'ai changé le nom évidemment du cosaque, et j'ai évidemment ajouté, imaginé que les Russes, les Rouges, seraient au courant de cette histoire et voudraient récupérer cet argent, et que les Anglais ne veulent absolument pas que l'Union soviétique récupère des sommes aussi colossales. Voilà. Donc j'ai imaginé une sorte de combat des services secrets.
Sans oublier quelques gangsters qui voudraient bien avoir cet argent aussi.
Voilà,
bien évidemment.
Voilà, les envoyés du jeune parti nazi notamment. Et tous ces Allemands, et par exemple en parlant des Allemands, il y avait beaucoup d'Allemands à Constantinople, parce que les Allemands d'abord avaient aidé les Turcs pendant la Première Guerre mondiale, et puis qu'il y avait des personnages aussi hauts en couleur là-bas, comme Rudolf von Sebottendorf, par exemple, un illuminé nazi qui habitait effectivement à l'époque à Constantinople.
Et donc, ça fait plusieurs fois qu'on parle de cette documentation, donc vous allez trouver ou par hasard, ou de toute façon, le fil conducteur est dans une documentation. Ce qu'on se demande un petit peu, c'est comment, à partir... Alors des fois, moi j'ai l'impression que vous noircissez des cahiers en collant une carte postale. Comment, à un moment donné, toute cette documentation va prendre, comme on dit très vulgairement, une mayonnaise qui va prendre et que tout d'un coup, vous allez vous mettre à écrire une pure fiction, parce que ce livre qui est un pur régal, c'est vraiment une fiction. Et s'il y a beaucoup d'anecdotes et d'histoires vraies, ça se lit de la première page à la dernière page comme un roman.
Bah, c'est ce que j'essaie de faire. C'est une question un peu de technique d'écrivain, mais disons que je lis les deux ou trois ouvrages fondamentaux autour du sujet. Donc déjà, je sais un petit peu mon thème, et puis aussi je vois quels sont les autres livres dont j'ai besoin. Mais... Ayant lu les deux ou trois livres et commencé à imaginer le début, en tout cas, de mon histoire, là, un jour où je suis bien tranquille, je me lance et j'écris le premier chapitre. Et c'est ce premier chapitre qui va nourrir le second, et les deux premiers vont nourrir le troisième, et ainsi de suite. Et l'histoire se bâtit dans ma tête au fur et à mesure.
Et il y a, au début de ce roman, il y a une espèce de mise en abîme que j'aime beaucoup, de mise en abîme littéraire. Il y a Amanda, qui est donc au départ... soi-disant, la détentrice des mémoires de Ralph, etc. Et il parle du précédent roman, justement, Première Station avant Abattoir, et juste une petite citation. « L'un des mérites de ce roman à l'action trépidante est précisément de nous faire vivre l'histoire à travers le regard cynique et désabusé d'une créature de fiction, aussi vraisemblable que celle authentique que l'auteur lui fait croiser. » Quelques lignes plus loin, « Toutefois, ce n'était que le premier épisode d'une sorte d'autobiographie camouflée sous un cycle de romans d'espionnage, rappelez-vous. » C'est un peu votre déclaration d'intention.
Oui, tout à fait. D'abord, c'est vrai que quand on est dans le deuxième épisode d'un livre, le lecteur a déjà lu le premier ou ne l'a pas lu, donc il faut quand même lui donner quelques éléments d'information. Et puis comme 2 années environ s'étaient écoulées, donc je connaissais déjà la carrière du premier, je savais qu'il avait eu le prix Arsène Lupin, le prix Mystère de la Critique, et qu'il avait vu quelques articles élogieux dans la presse, et je me suis amusé justement à imaginer que mes personnages, sachant la carrière justement de ce livre, pouvaient en parler entre eux. Et l'extrait que vous avez lu est justement l'extrait d'une critique de François Rivière dans le Figaro littéraire à propos de ce livre. Et puis j'avais mentionné également les prix et tout ça. Donc c'est une sorte de clin d'œil, de private joke.
Très joli clin d'œil. et qui permet effectivement de resituer. Et on peut dire à nos auditeurs qu'on peut parfaitement lire ce livre sans avoir lu le précédent. Ouais. Et puis après, de toute façon, on ira chercher les premières aventures de Ralph. Et donc justement, il va y avoir... Ralph n'est pas mort à la fin de cet épisode-là. Donc on va continuer à retrouver Ralph Exeter dans différents endroits du monde avant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, mon plan est d'en faire 6. Parce que à chaque fois, je cite un poème de mon grand-père et mon grand Georges Slocombe. Il avait écrit une petite plaquette de poèmes publiée sur les presses d'un éditeur américain de l'époque du Montparnasse des années folles. Et cette plaquette s'appelait Gaucherie. Et c'est une sorte de jeu de mots, parce que c'était l'œuvre d'un jeune poète, mais aussi d'un homme de gauche. Et ces poèmes, qui sont souvent en éloge à la Révolution russe d'ailleurs, ils sont au nombre de 6. Donc je me suis dit que comme en écrivant le deuxième roman, j'avais à nouveau utilisé un poème de mon grand-père, je me suis dit que ce serait une indication pour combien de livres j'allais écrire de cette série. Donc dans chaque épisode, un poème différent sera cité. Et je comptais ça depuis le début, d'ailleurs, me rapprocher petit à petit de la Seconde Guerre mondiale, parce que la première station avant l'abattoir, le titre du premier, je faisais allusion non pas à un abattoir réel, mais à la Seconde Guerre mondiale, voilà, à la boucherie de la Seconde Guerre mondiale qu'on sent s'approcher, et justement en hommage aussi au journalisme politique de mon grand-père, je voulais montrer comment, à travers toutes ces manœuvres entre pays de l'Europe, on se rapproche petit à petit de la catastrophe. Et donc, je pense, celui-ci se passe en 1925, je pense à faire des livres dont l'action est tous les 3-4 ans à peu près. Ouais.
Et alors, je ne sais pas si c'est un fantasme de lecteur, mais je remarque que depuis quelques années, on a un roman très sombre, Monsieur le Commandant, et puis ensuite un roman plus léger avec Ralph. Mmh. Entre les deux, entre l'avant-dernier et celui-là, il y a eu un très très beau roman, mais très noir, À vie à mon exécuteur. Là aussi, parlant de faits réels. Maintenant, un roman plus léger. Mmh. C'est, je dirais, volontaire d'alterner des romans qui ont quand même des ambiances différentes.
Quand on publie beaucoup comme moi et chez divers éditeurs, il faut s'organiser.
Déjà.
Et puis il faut justement se changer un peu les idées, c'est-à-dire j'aime pas me répéter et j'aime bien changer d'atmosphère. Donc je me débrouille pour quand je planifie une année de travail, par exemple, pour comme vous l'avez observé très justement, alterner des livres d'humeur différente pour moi-même avoir l'impression de faire quelque chose de radicalement nouveau, rentrer dans un univers totalement différent. Et là, par exemple, je viens de terminer un livre qui sort en janvier qui s'appelle Des petites filles modèles et qui est une revisitation pour adultes de la comtesse de Ségur et qui est un roman érotique et légèrement fantastique aussi, situé à la Belle Époque.
Donc et, encore totalement différent.
Voilà, tout à fait. Oui. Et puis après, je vais me replonger dans une nouvelle série extrêmement noire dont le héros est un policier français à Paris sous l'occupation.
On restera quand même au XXe siècle et plutôt au début du XXe siècle. Oui. Romain Slocombe, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Et on va laisser la première partie de cette émission se terminer et se retrouver dans quelques minutes. Merci.